Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Grace Amzati, voici le sommaire. Initialement prévu pour ce samedi, l'élection des membres du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure. Selon le premier secrétaire rapporteur du Sénat, ce nouveau report est dû aux contraintes sécuritaires et logistiques. Dans la foulée, Augustin Kabuya convoque les présidiums de l'Union Sacrée pour la finalisation du ticket de l'Union Sacrée aux différents postes de la Chambre haute du Parlement. Michel Kifindangoy nous en dit plus dans quelques instants. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa recommande que le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda soit permanent. C'est l'essentiel de son message à Luanda, en Angola, au cours de la rencontre ce jeudi avec son homologue angolais João Lourenço. L'invité de la rédaction ce midi est le docteur Noah Mutangala. Depuis plus de 10 ans, il opère gratuitement les femmes qui souffrent de la fistule vésico-vaginale. Il demande à toutes les femmes qui en souffrent de briser la honte et de se faire soigner pour retrouver leur dignité. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bonjour. Ouvrons ce journal par l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. La séance plénière, initialement prévue pour ce vendredi, consacrée à l'audition des messages de la campagne électorale des candidats, est reportée à une date ultérieure. Dans un communiqué signé par le premier secrétaire rapporteur du Sénat, ce nouveau report est dû aux contraintes sécuritaires et logistiques. Alors qu'Ivan Kankonde annonce la publication dans les prochaines heures d'un calendrier électoral réaménagé, Augustin Kabuya convoque le présidium de l'Union Sacrée pour la finalisation du ticket de l'Union Sacrée au différents postes du Sénat. Michel Kifindangoy.
C'est sur fond d'une forte tension et d'un désaccord autour des candidatures que se déroule le processus d'élection et d'installation des membres du bureau définitif du Sénat. Si au sein de l'Union Sacrée, l'UDPS est en désaccord avec les autres membres sur la candidature de Jean-Michel Samalukonde comme président du Sénat, au sein même de l'UDPS, le camp d'Augustin Kabuya s'est affronté mardi à celui des jeunes de la Vision Fachi sur la candidature d'Afani Idrissa qui vient circuiter celle de Jonas Munkamba. Après persistance des désaccords en son sein, la commission spéciale tranche de valider tous les candidats afin qu'ils soient départagés par le vote des sénateurs. D'après les sources sécuritaires au Palais du Peuple, aucun militant ne pourra accéder à la plénière portant vote des membres du bureau définitif du Sénat pour éviter des dérapages. En dépit de la publication de la liste définitive des candidats jeudi tard dans la soirée, le bureau provisoire décide de renvoyer la plénière de la campagne et de vote à une date ultérieure. Pour donner la chance à une élection apaisée, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, convoque ce vendredi une réunion du présidium afin de finaliser les tickets de l'Union Sacrée.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Pendant ce temps, le gouvernement provincial du Kwango a été investi jeudi par l'Assemblée provinciale lors d'une plénière à Kenge, chef-lieu de la province. 21 sur 24 députés provinciaux présents ont adopté sans motion ni amendement tous les points inscrits à l'ordre du jour. Que peut-on dire en ces jours si ce n'est de rappeler à ces gouvernements la responsabilité qui est la sienne, celle de se mettre au travail? Car il n'a qu'une seule obligation, celle des résultats. Il ne sera donc pas question de s'amuser ni de somnoler. Je vous invite à tout mettre en œuvre pour nous apporter des solutions attendues aux problèmes posés, a déclaré André Massala, président de l'Assemblée provinciale du Kwango lors de l'investiture du gouvernement provincial. On écoute un extrait de l'allocution du gouverneur Willy Bitusila qui revient sur quelques défis auxquels fait face la province, extrait choisi par Alain Irung.
Parmi les défis à relever figure principalement le faible niveau d'investissement public et privé, la vétusté et effondrement de l'appareil de production, la persistance d'une agriculture traditionnelle sur brûlis, peu productrice et destructive de l'environnement, la montée de la malnutrition et des maladies nutritionnelles comme le gonzo, la prédominance de l'économie traditionnelle et informelle, la faible capacité financière, une administration publique peu modernisée avec un personnel démotivé, une absence de structures bancaires dans le Kwango profond et très faible représentation au chef-lieu ici à Kenge.
Merci de nous recevoir au quartier Lombolombo à Kindu, dans la province du Maniema, où l'atelier de renforcement des capacités des conseillers communaux de cette ville s'est clôturé mercredi 7 août. Ces assises de deux jours avaient pour objectif d'outiller ces derniers sur leur rôle dans la consolidation de la démocratie, étant donné que le conseil communal est une nouvelle expérience au pays. Les organisateurs se disent partiellement satisfaits, car selon eux, il y a encore beaucoup à faire avec ces conseillers communaux. Radio Kapi à Kindu, Florence Kizalunga.
À la fin de ces assises, c'est un sentiment de gratitude qui a caractérisé ces conseillers communaux. L'un d'eux, Saleh Kandolo, de la commune de Kasuku.
Nous remercions les organisateurs de cet atelier, la Caritas Développement Kindu, parce qu'à la fin de cet atelier, nous avons acquis des connaissances qui vont nous permettre de bien nous comporter, de bien jouer notre rôle au niveau de la base.
L'autorité provinciale exhorte ces derniers à capitaliser ces acquis. Lawamo Selemani.
On les a référencier aux différents textes légaux pour qu'ils puissent bien maîtriser leurs compétences, leurs attributions et pour éviter des chevauchements entre les attributions des conseils communaux et les attributions des collèges exécutifs communaux.
Pour leur part, les organisateurs parlent d'un besoin encore ressenti. Maître Salem Mouchaba.
Oui, partiellement satisfaite parce que nous avons donné l'essentiel de nous-mêmes, mais nous pensons qu'il y a encore de l'intérêt à pouvoir organiser encore la même activité, d'autant plus que nous pensons que un bon nombre de conseillers communaux ne savaient même pas par où commencer et par où terminer. Et donc, il y a encore de la matière à donner aux conseillers.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous l'avons dit dans les titres, le cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda doit être permanent. C'est l'essentiel du message de la visite à Luanda, en Angola, du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Dans une dépêche de l'agence congolaise de presse, Cyril Ramaphosa dit être allé remercier son homologue João Lourenço pour les efforts qui ont été déployés en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Cette rencontre entre les deux chefs d'État a eu lieu hier jeudi. Le point avec Askin Zigda Tayoro.
Cette dépêche indique que le souhait du président de l'Afrique du Sud revêt d'une importance capitale. Un cessez-le-feu permanent entre la RDC et le Rwanda peut permettre aux deux pays en conflit de continuer à multiplier des efforts pour renforcer les relations de coopération. Pour Ramaphosa, l'acte de paix obtenu pour faire taire les armes doit être célébré. C'est en ces termes, en tout cas, qu'il a remercié son homologue angolais João Lourenço. La dépêche précise que des questions de sécurité dans la région du SADC ont été aussi abordées lors de la rencontre entre les deux chefs de l'État. L'accent a été mis plus sur le conflit en RDC dont sa partie orientale en souffre. Il faut noter que le cessez-le-feu obtenu est en vigueur depuis dimanche dernier. Sa décision a été prise à la suite d'une réunion ministérielle entre la délégation de la RDC et celle du Rwanda sous la médiation angolaise.
Askin Zigbia Tayoro sur la radio de la paix. Nous sommes au Nord Kivu. Il ne revient pas au simple chef de quartier d'identifier les militaires et policiers détachés à Goma tels qu'ils recommandés par la 34e région militaire. C'est la réaction de la société civile urbaine de Goma au communiqué de l'armée du 7 août dernier. Cette mesure recommande aux militaires et policiers détachés ou bien se trouvant en ville de se faire identifier auprès de ces cadres de base. Cette structure citoyenne parle des vices d'autorité. Le récit des faits avec Denise Loukesso.
La 34e région militaire justifie cette mesure en raison des opérations de bouclage à venir. Ceci au regard de la montée de l'insécurité dans la ville, impliquant parfois des hommes en tenue militaire et policière. Colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de FRDC au Nord Kivu.
Il est recommandé à tous militaires et policiers habitant la cité, détachés ou s'y trouvant pour une quelconque raison particulière, de se présenter munis de leurs armes auprès des chefs de quartier en vue de leur identification.
La société civile de Goma salue cette initiative. Cependant, plusieurs questionnements demeurent quant aux pratiques d'accompagnement de cette mesure. Son président demande que soit annulée simplement cette mesure et de confier ses travaux aux services attitrés de l'armée, tels que l'administration et la commission logistique.
Depuis quand un militaire se rend auprès d'un civil pour s'identifier? Comment le chef de quartier saura si les armes et munitions en type et en caractéristique leur présentées sont celles réellement connues et détenues par le militaire et policier à partir du dépôt des armements?
Sur le terrain, les cadres de base déclarent qu'aucun document ni autre moyen logistique sont mis à leur disposition pour effectuer ces travaux. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Nous enchaînons avec cette autre réaction. Il s'agit de l'Association nationale des victimes qui salue la relance du processus d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani dans la province de la Tchopo par le ministre de la Justice Constant Mutamba. Son coordonnateur a indiqué mercredi à Radio Kapi que cet acte est à encourager, surtout que le montant alloué pour chaque cas a été revu sensiblement à la hausse. Mais Mira Mulumba souligne que cela ne suffit pas pour panser les plaies de toutes ces familles qui avaient été touchées par cette tragédie. Les victimes attendent que les anciens animateurs de Frivao suspendus pour avoir détourné l'argent destiné aux victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani soient jugés publiquement. Les propos de Mira Mulumba sont recueillis par François Kadima.
Nous saluons la démarche entreprise par Monsieur le ministre, d'abord, au départ d'avoir gelé les comptes de Frivao au regard du tout cafouillage qui s'observait depuis que ce fonds était arrivé, l'enveloppe débloquée de 325 millions de dollars allouée par l'Ouganda. Le ministre Constant Mutamba, qui s'est placé d'abord dans la peau de la victime, donc nous trouvons la position actuelle prise par le ministre qui est tout à fait salutaire. Mais ça ne suffit pas seulement parce que le président du conseil d'administration, pourquoi pas aussi le directeur, qui sont actuellement dans un état de détention, nous voudrions qu'il y ait un procès public qui doit être télévisé pourvu que toutes les victimes suivent de plus près dans l'espoir que cela serve de leçon parce que le fonds de victimes, c'est une sorte de fonds de deuil qu'on ne peut pas bouger. Nous demandons à la Cour internationale de justice que l'enveloppe qui a été allouée de 325 millions de dollars est extrêmement faible au regard de l'afflux de préjudice subi par les Congolais, particulièrement mes frères et sœurs de la ville de Kisangani.
Justice à présent, le verdict vient de tomber dans le procès contre la Force du Progrès, une structure de l'UDPS, le parti présidentiel. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe condamne une quinzaine de prévenus à la peine capitale. Il acquitte une quinzaine autres qu'il renvoie des fins de poursuite. La défense promet d'interjeter appel contre ce verdict. Le ministère public, qui a requis la peine des morts contre tous les prévenus, annonce également son appel dès aujourd'hui. Dans son jugement, le tribunal ne reconnaît pas l'attaque de la résidence de l'ancien président de la République qu'il considère comme un simple bruit. Rappelons que les membres de la Force du Progrès étaient jugés en flagrance depuis vendredi pour des infractions présumées, des destructions méchantes, coups et blessures, pillage, tentative de meurtre et rébellion après l'incident du quartier Gelem sur l'avenue Ouvira dans la commune de la Gombe. On écoute leur avocat qui intervient ici à partir du lieu où s'étaient les audiences sous le bruit de l'hymne de l'UDPS chanté par les prévenus. Maître Sylvain Mutombo est joint par Jeff Ngoy.
On avait d'abord obtenu le premier jour une disjonction de poursuite d'une vingtaine qui étaient des mineurs. Ils étaient écartés à côté déjà. Par une décision avant dire droit du tribunal, nous avons continué avec la procédure en flagrance qui a pris fin aujourd'hui avec les réquisitoires du ministère public ainsi que les plaidoiries de différentes parties au procès. Le tribunal vient de rendre sa décision en condamnant une quinzaine et libérant 55 qui sont acquittés aujourd'hui. C'est une grande victoire de la défense et nous pensons interjeter appel pour faire valoir leurs droits au degré d'appel. Et nous pensons que même au degré d'appel, nous nous battrons pour obtenir l'acquittement des antibales avec les autres qui sont condamnés à la peine capitale.
Parlons de la tenue hier à Mbandaka d'une table ronde sur l'autonomisation de la femme de l'Équateur. Une initiative de l'ONG AMASEC, Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, en collaboration avec Kinshasa News Lab et Internews. Elle vise, selon les organisateurs, à rehausser les niveaux de vie de la femme, car son extrême pauvreté contraste avec les ressources naturelles de la province. La table ronde a formulé des recommandations dont la sensibilisation et le réseautage des femmes de l'Équateur. Les comptes rendus de Paul Richard Malingela.
Outre l'exposé sur les changements climatiques, les participantes à cette table ronde ont également été formées sur la participation des femmes leaders aux activités génératrices de revenus. Au regard des multiples opportunités naturelles dans la province de l'Équateur, l'oratrice Ruth Bangané a invité ses congénères à bannir les us et coutumes pour s'unir et créer des unités de production solides et qui les affranchissent de la pauvreté.
La femme de l'Équateur s'élève très tôt matin. Elle va à la recherche de qui vivent, puis elle rentre que le soir. En tant que femme leader de l'Équateur, nous devons nous unir, donner des microcrédits entre nous, créer un réseau d'écoulement de produits avec les femmes rurales du village, des territoires, jusqu'au niveau de Kinshasa, voire même exporter. Nous voulons que ce leadership soit vraiment très fort.
Plusieurs participantes ont apprécié cette approche. Cependant, le chef de division provinciale du genre famille et enfants Équateur, lui, estime que le succès dépend de la mobilisation de toutes les couches féminines. Pichu Bomandeke.
Ces femmes-là qui se disent leaders, ils doivent faire participer d'autres femmes. Parce qu'on ne peut pas seulement rester avec une catégorie de femmes et qui sont privilégiées. On aura un peu beaucoup de femmes qui seront autonomes.
Bondaka, prochain Malingela, Radio Okapi.
Cette triste nouvelle en plus bref. Le mois Mikabar et de la chefferie du même nom au sud Kivu sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi à Tirunga, chef-lieu de la chefferie des Kabaré. La dépouille de Sa Majesté Mwami est arrivée hier, accompagnée d'une forte délégation des autorités politiques, conduite par le président de l'Assemblée nationale. Plusieurs autres autorités coutumières venues de tous les coins du pays et du continent sont également présentes à Tirunga. Les cérémonies proprement dites d'inhumation seront précédées des rites coutumiers. Pour rappel, le Mwami Kabaré Rugemaninzi Nabushi est décédé au Maroc le 27 juillet où il était parti se faire soigner.
Actualité internationale.
Au Mali, le village de Kwakuru, situé dans la région de Mopti, a subi une incursion des groupes terroristes de la Kati Bamatina, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans la soirée du mercredi 7 août, selon des sources locales. Le camp des forces armées maliennes a été ciblé dans cette attaque qui a fait plusieurs blessés.
L'invité.
C'est le docteur Noha Mutangala. Depuis plus de 10 ans, il opère gratuitement les femmes qui souffrent de la fistule vésico-vaginale. Il demande à toutes les femmes qui en souffrent de briser la honte et de se faire soigner pour retrouver leur dignité. Le docteur Noha Mutangala s'entretient avec Jean Gandou.
Docteur Noha Mutangala, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
À ce jour, dans la province du Haut-Katanga ou à Lubumbashi, il y a combien de femmes fistuleuses?
C'est une donnée qui n'est pas mise à jour. C'est justement, c'est ça le problème même, parce qu'on n'a pas de données statistiques précises par rapport à ça. C'est une maladie de la honte, c'est un tabou.
Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, vous en avez déjà opéré combien?
Depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, nous sommes à 52 cas.
Ce sont les femmes qui sont venues principalement de quel coin?
Nous avons des femmes qui sont venues du Haut-Katanga et des femmes qui sont venues de la province du Lualaba, les femmes qui sont venues de la province du Olomami, il y a des femmes qui sont venues de la Zambie et il y en a une qui est venue de l'Angola.
Pour toutes ces femmes, les causes sont les mêmes?
Les causes sont essentiellement les mêmes, ce sont des causes obstétricales. On a eu deux cas de causes qui étaient traumatiques.
Dû à quoi?
Il y a eu un traumatisme chez une petite fille de 6 ans, dont le partenaire de sa maman qui l'a violée.
Et toutes ces femmes, lorsque vous les opérez, est-ce qu'elles retrouvent leur dignité après?
Justement, comme vous le savez, rejetées de la communauté, reprises en opération, l'opération ayant réussi, elles recouvrent leur vie de femme. Et une femme qui ne dégage plus de mauvaises odeurs, donc sa dignité est revenue, parce que la place de la femme, c'est à la maison et non pas être rejetée par la communauté. Elle est la courroie de transmission entre les enfants et les maris.
Est-ce que les femmes que vous soignez sont des messagères auprès d'autres femmes qui souffriraient de la même maladie mais qui ont honte de se faire voir, de se faire connaître pour qu'elles puissent elles aussi recevoir les soins nécessaires?
Et justement, nous avons un réseau d'ambassadrices par rapport à la thématique de la fistule. Parce que ce sont les femmes qui ont été opérées guéries, qui travaillent gratuitement dans ce sens-là pour collecter aussi les données sur les autres femmes qui sont éparpillées et elles en font une publicité dans leur communauté.
Et une fois venues, comment s'est fait la prise en charge?
De ce côté-là, elle est gratuite, mais généralement, elles arrivent dans dans un mauvais état général du point de vue nutritionnel. Nous nous battons pour essayer de leur donner le nécessaire pour remonter l'état général afin qu'elles soient éligibles à la chirurgie. Comme vous le savez, la chirurgie c'est aussi un traumatisme lorsque l'état général n'est pas bon.
Dans l'est du pays, on a parlé une fois que les femmes fistuleuses le sont par l'effet des conflits, la guerre. Mais dans les Haut-Katanga, en dehors du cas particulier que vous avez évoqué, du viol de la petite fille par son père, et les autres cas, c'est réduit à quoi?
Les autres cas, parfois aussi, ça peut être une mauvaise manipulation des opérateurs. Hein. Normalement, des médecins qui n'auront pas été assez outillés, encadrés pour la prise en charge, par exemple, de la césarienne, ça peut arriver. Ou encore des médecins qui ont tenté de faire des hystérectomies.
Ça veut dire quoi?
L'ablation ou le fait d'enlever la matrice pour une maladie donnée, ça peut aussi arriver à ça.
Et quand vous remarquez de telles choses, qu'est-ce que vous faites auprès de vos compères?
Pour commencer, d'abord, je suis président de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de Lubumbashi. À ce titre, lorsque nous allons dans nos conférences, nous essayons de faire la revue de tout ça. Faisons un rendu de nos trouvailles sous le terrain par rapport à la pratique.
Vous arrive-t-il aussi de sanctionner ceux qui auront commis des fautes professionnelles?
Il faut les retracer. À ce titre, je suis membre du Conseil provincial de l'Ordre des médecins. Confrère qui serait fautif, qui poserait une faute professionnelle, il faut retracer, il faut trouver les preuves, il faut documenter ça. Si on trouve que réellement il est fautif, la sanction peut venir.
Pour terminer, docteur, il y a beaucoup de femmes qui vous suivent, qui aimeraient peut-être aussi bénéficier de ces soins, mais qui ne savent pas se faire voir par la honte, parce que vous avez dit c'est une maladie de la honte. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour bénéficier également de ces soins gratuits? Et vous le faites selon quel programme?
Vous constituez un canal assez précieux pour nous, pour permettre à ce que le message soit porté plus loin, afin que les femmes là puissent venir vers nous. Il n'y a pas un programme précis. Nous les recevons de manière routinière. Lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles sont éligibles, nous pouvons les prendre en fonction de leur état général.
Elles vont à la polyclinique Bénicaire?
Justement, polyclinique Bénicaire qui est située au quartier Jolicite, sur route Kinsevere, à hauteur du poteau numéro 16. Tout est gratuit et je le répète, je confirme, c'est gratuit. La polyclinique, on est pratiquement à la 10e année, nous le faisons gratuitement. Et moi, je suis dans la pratique, ça fait déjà 17 ans et je le fais gratuitement.
Docteur Noam Tangala, je vous remercie.
C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'opportunité.
Notre invité était interrogé par Jean Gandouf depuis la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ces radio journal, coordonné et supervisé par Alain Rung et mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwana Makeng Onswalu, à la présentation grâce à Mzati Masanzi. Ce journal est à réécouter sur www.radiokapi.net. Merci pour votre confiance à la fréquence de la paix.